Et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Nous revenons ensemble chaque mois sur des sujets de société, d'histoire et de tech, mais également à tout ce qui peut faire l'actualité à Oslo et en Norvège. Nous sommes le mardi 3 octobre et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure et avec nous aujourd'hui, nous avons d'abord Valentin. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Tu vas nous faire un petit bilan de ta première année à Oslo.
C'est ça, ouais.
Nous avons aussi notre reine de la tech, Emma, qui est aussi avec nous aujourd'hui. Bonjour Emma.
Salut.
Tu vas nous parler de quoi ?
Moi, j'ai demandé un peu d'aide à ChatGPT aujourd'hui.
Ah, très bien, on a hâte. Nous avons aussi pour sa deuxième émission, bonjour. Roxane. Bonjour Roxane, tu vas nous parler de quoi ?
Je vais faire deviner des faits divers norvégiens à peu près récents et essayer de vous faire rire un petit peu.
Ok, très bien. Super, merci. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cécile Moroni, notre humoriste nationale à Oslo. Bonjour Cécile.
Bonjour tout le monde.
Ça va bien ?
Très bien, merci.
Content d'être là.
Ravie.
Et on va parler de voitures avec toi.
Voilà.
Super. Et quant à moi, je vous ai réservé un quiz en deuxième partie de l'émission. Alors, chers auditeurs, restez avec nous jusqu'au bout. Ça va être un vraiment très bon moment. Alors, est-ce que vous avez vu des nouvelles depuis qu'on ne s'est pas vu ? Qu'est-ce qui s'est passé sur Oslo en Norvège ? Il y avait le gros scandale avec Erna Solberg ?
Ouais, effectivement, je vais pouvoir en parler un petit peu plus aussi.
Plus tard ?
On a un petit scandale de corruption.
En cours.
Une fois, un peu sulfureux ici.
Concernant les infos du mois d'octobre, eh bien, j'ai la triste nouvelle pour ceux qui aimaient fréquenter cet établissement que le bar de Scotsman. Il va fermer. Après 50 ans d'existence, le bar semblerait qu'il va mettre la clé sous la porte. La date du 1er janvier a été annoncée. Ce que j'ai compris, c'est que en fait, le bâtiment est un peu, il a besoin de rénovation et qu'ils veulent rénover et trouver un nouveau locataire. Donc ciao les Scottish. Voilà, donc c'est un peu dommage. Tu es allée souvent, toi, Cécile ?
Ouais, quand je suis arrivée à Oslo, j'adorais cet endroit. C'est un peu une institution. Pourquoi ils ferment ?
Parce que je pense qu'ils doivent rénover. Voilà, donc ils essaient de se relocaliser quelque part à Oslo. On croise les doigts.
Bah oui, quand même.
On croise les doigts qu'ils trouvent un autre local. C'est un peu dommage, hein, parce que quand même 50 ans, c'était ouvert en 74. Bon. Tu y allais souvent, Emma ?
Non, justement, j'allais dire, moi, je n'y suis jamais allée. Donc,
Non, Roxane, tu y allais
Pas du tout.
Eh bien, on pousse nos auditeurs. Allez-y, allez leur donner un peu de soutien.
Moi, je suis aussi attirée par les prix. Hein. Ce n'est pas forcément l'endroit.
Faut te faire inviter.
Eh bien, oui.
Voilà. OK. Et la deuxième info que j'ai lue, c'est qu'apparemment, il y a un très, très, très gros projet de tunnel qui est en discussion. Au nord de la Norvège, un projet qui devrait rallier les rilles des villes de Fauske à Tromsø, en passant par Narvik et avec une petite branche qui va aller à Arsta, pour la modique somme de 280 milliards de couronnes. Voilà, donc ça fait...
Les péages.
Donc ça fait 23 tunnels entre Fauske et Narvik, 31 tunnels entre Narvik et Tromsø, enfin gros projet. Quoi. Ah ouais. Donc, il y a plusieurs problèmes. C'est que déjà, grosse atteinte à la nature. Donc, ils veulent quand même un peu près... C'est un projet pharaonique. Apparemment, ils doivent ramener une quantité de pierres pour construire leur truc. Voilà. Et le gros problème aussi, c'est qu'en fait, la majorité de ce tunnel serait sous terre. Donc, voilà, sympa. Donc, entre Fauske et Tromsø, il y a plus de 2h30 sans voir le jour. Donc, très bien. Pour le train, c'est génial.
C'est pas comme s'il y avait non plus tant de soleil en hiver en Norvège.
Non, mais t'imagines 2h30. Bon, ce que j'ai compris, c'est que c'est un tunnel pour les trains, dont la plus grande section serait de 24 km autour de Meyrasfeldfjell.
C'est hyper découpé la coupe, tu crois pas ? La côte là-bas est hyper découpée, non ?
C'est ça, en fait, je pense qu'ils veulent raccourcir justement les trains qui sont mal desservis. Là, peut-être que ça vous voudrait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Spécialiste du Nord, Emma.
Spécialiste du Nord. Disons que si ça peut éviter 3 bateaux, 12 heures de route, et que. Oui.
Ça évite de prendre l'avion, quoi. Mais à quel prix est-ce que c'est vraiment rentable au niveau écologique ?
Ça va être la grosse question.
Ouais.
Je sais que près d'Arsta, ils ont fait un immense tunnel sous la mer pour relier plusieurs îles, justement, parce que sinon, ça coûtait moins cher de faire des ponts. j'imagine. Et puis du coup, c'est,
On n'a pas encore d'expérience en BTP, donc si nos auditeurs, non, il y a des spécialistes de BPT.
Un truc aussi, c'est qu'on ne détruit pas la nature en soi. En faisant moins, des tunnels, en tout cas, et puis du coup en polluant moins. Enfin, je pense que ça a son lot de pour et contre.
Puis dans le nord.
Du coup, moins de bateaux, moins de pollution dans la mer directe. Bon, on lui enlève un bout de terrain. Je ne sais pas à quel point ça touche. Il faudrait Camille pour nous parler des fonds marins qui sont touchés.
À l'occasion,
ou pas,
on lui demandera.
On lui demandera.
On lui fait la bise. Qui est maintenant aux Antilles, Camille.
Après, un tunnel, c'est toujours mieux qu'en surface aussi. Enfin, du coup, c'est un tunnel sous-marin, c'est ça ? Ou c'est
sous terre. Après, ils disent que le tracé aussi doit éviter certaines montagnes, puisque ça ne peut pas passer au travers. Donc, je ne sais pas. Mais,
parce qu'après, tu as les terres Samy aussi. Enfin, tu vois, par exemple, Amel Keya, quand il voulait électrifier l'extraction de pétrole, du coup, ça a impliqué de construire des éoliennes. Et ça, y avait un gros conflit avec les Samy. Et du coup, je pense que sous terre, les Samy ont... Soit ça ne s'intéresse pas trop à la terre en dessous. Ouais.
Affaire à suivre, je sais que ça divise énormément les partis politiques norvégiens. Donc, est-ce que ce projet verra le jour ou non ? Nous le verrons bien. Et sans transition aucune, nous passons à toi, Roxane. Tu nous as préparé une sélection de faits divers.
Exactement, j'ai fait une petite recherche sur des petits faits divers assez marrants qui sont passés ces dernières années ici en Norvège. Donc, c'est rien de très très récent, mais ça date de 2020-2021. Le plus vieux de 2016, mais c'est pas grave, c'est pas important. Alors, premier fait divers, il va falloir que vous deviniez. Vous pouvez me poser des questions également pour un peu vous rapprocher de la réponse. Mm-hmm. Pendant la période de Covid, un quinquagénaire norvégien a tenté de fuir la quarantaine qu'il devait faire dans un hôtel. Comment a-t-il fait pour fuir cette quarantaine ? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier ? Donc, il est norvégien, c'est important de le préciser.
Il a sauté de sa fenêtre à ski, un truc comme ça.
Est-ce que c'est
ça se rapproche très très près, oui. Non. Mais ski, c'est en lien, c'est complètement en lien.
J'allais dire un truc un peu glauque, donc je vais passer mon tour.
Il a escaladé la façade de l'hôtel ?
Non, c'est plus. En fait, il a vraiment.
En luge ?
En fait, il a dû être secouru. Donc, c'est-à-dire qu'il a réussi à atteindre, à faire un peu son objectif.
Ah, il s'est crashé, quoi, quelque part ?
C'est ça, oui, à peu près.
Ok. Donc, pas en ski.
Il a essayé. En fait, il voulait rentrer en Norvège, je vous donne un peu plus d'indices. Il voulait rentrer en Norvège pour récupérer les papiers pour ensuite revenir en Suède où il avait un chantier en cours. Sauf que du coup, il n'a pas pu arriver en Norvège, jusqu'en Norvège.
Est-ce qu'il n'a pas fait le saut en parachute ? Tu sais, tu t'es lancé avec le ski, un parapente.
C'est en ski, mais il y a un peu plus de précision.
Il faut qu'on trouve les précisions.
C'est pas s'est fait attaquer par un ours, un truc.
Il n'avait plus de batterie sur ses skis électriques. Non,
il s'est pris un arbre.
Non.
Il a rencontré un ours.
Oui, non, mais c'est ça. Mais en fait, il a fait du ski, oui, mais où ça ? Qu'est-ce qu'il a comme...
Sur la...
Ah, il s'est retrouvé sur l'autoroute ?
Sur l'autoroute ?
Non.
Mais sur une route ?
Non, mais ok. C'est ça, c'est qu'il a fait du ski. Il a tenté de traverser la frontière à ski depuis la montagne. Donc en fait, il a vraiment juste contourné toute sorte de population possible. Depuis la Suède, il a tenté de faire une équipée de 40 km. Sauf qu'il n'a pas réussi.
Il déterre.
Ah ouais, non, mais oui. Il avait vraiment envie de continuer à faire son truc. Il n'a pas réussi car il y a eu d'être secouru, surpris par le mauvais temps. Le skieur s'est retrouvé en difficulté après environ 25 km de périple.
Oh, c'est pas mal quand même.
Ouais, attends. 25, il a presque la moitié. Hein.
Ils vont nous faire une course après ça. Ils vont lui mettre son nom.
Il a d'abord été aidé par un éleveur de rennes, puis a été confié à deux pêcheurs qui ont attendu l'arrivée des secours.
Attends, mais c'était où en Suède ?
Alors, j'ai pas la précision.
C'était au nord, parce que le pourriquet des rennes, c'était.
Oui, oui. Il a
vraiment déterre.
C'est pas Gardemoun, quoi.
Complètement. Ouais. C'est ça, il avait vraiment pas envie d'être en quarantaine.
Ok, deuxième fait divers.
Oui. Toujours au niveau d'une frontière, il y a une nouvelle pancarte qui avait été posée en 2021 au bord de la frontière norvégo-russe, interdisant de faire quelque chose. Qu'est-ce qui est interdit ?
Prendre des photos.
Non. C'est une pancarte qui a été mise un peu par. Enfin, un peu de manière.
Ironique.
Un peu libertine, un peu ironique, ouais, c'est ça. C'est pas officiel.
Boire de la vodka ?
Non.
Est-ce que c'est en lien avec les alcools ?
Non.
Non.
Donc il est interdit de faire quelque chose sur le territoire russe ?
De dire God bless America ?
Non. Est-ce que c'est un peu plus débile, quoi.
Est-ce que c'est en lien avec la nourriture ?
À peu près.
Non,
pas vraiment. C'est parce que tu manges. T'as pas interdiction de manger quoi que ce soit ?
Non.
Et si jamais on viole cette interdiction, elle est passible d'une amende de 3000 couronnes.
Ah, quand même.
Mais c'est un peu assez important comme amende pour...
De faire diffuser de la musique.
Non, c'est quelque chose que... Bah oui, c'est un peu plus dégueu, quoi. C'est un peu plus.
De vomir sur la frontière russe.
On s'y approche.
Faire pipi chez ouais. en public. Ah oui, c'est ça. J'ai un copain américain qui se fait arrêter. Ouais.
Donc cette pancarte rappelle.
Sur la frontière, non.
C'est pas génial. En frontière, en Oslo.
Ah ouais, ben bah là, voilà. C'est, cette
ils l'ont pas emmené à garde à, en garde à vue, ils lui ont pas donné d'amende. Mais,
du coup, c'est la Russie qui t'arrête et qui va exactement. Te mettre en prison. Non, qui te fait payer l'amende.
Ouais, cette pancarte rappelle aux touristes qu'il est interdit d'uriner en direction de la Russie, rédigée en anglais.
Mais si donc t'es en Russie que tu pisses en Norvège, ça va.
Aussi, parce qu'à Oslo, tu te fais arrêter aussi. Hein.
En tout cas, ouais, mais non, mais je veux dire, là, vraiment, c'est. Ah oui, depuis la Norvège, tu n'as pas le droit de faire pipi en Russie. Et c'est écrit en anglais.
Priez de garder votre urine en Norvège.
Exactement. Non, mais c'est vraiment tellement écrit.
Est-ce que c'est un peu comme tu te diriges vers la Mecque, tu te diriges vers la
Bah ouais, c'est ça. Mais oui. Vraiment, l'écrito, littéralement, traduction française, ne pas faire pipi en direction de la Russie.
D'accord.
Voilà.
Ok, très bien.
Ouais.
Ok, troisième fait divers.
Ok, alors. À Oslo, en 2020, un imitateur a battu un record du monde. Qui imitait qui était cet imitateur? Qui imitait-il? Et combien de temps a-t-il tenu pour son imitation? Oula. Le temps, on peut voir après. Mais qui est-ce qu'il imitait? Assez facile.
Un politicien?
Non.
Un sportif?
Non.
Un chanteur?
Oui.
Il imitait un chanteur?
Oui.
Un chanteur norvégien?
Non.
Un chanteur américain?
Oui.
Elvis?
Oui.
Ok.
Très bien.
C'est un des plus imités. C'est ça.
Et combien de temps a-t-il tenu?
48 heures.
Plus. Oh. Pas énormément en plus, c'était pas loin.
50 heures.
Exactement.
Ah ouais.
En 50 heures, 50 minutes et 50 secondes, Kjell Elvis, nom de scène de Kjell Henning Bjørnestad, a pulvérisé de plus de 7 heures le précédent record homologué par le Guinness des records. Il avait commencé sa prestation un jeudi et l'a fini le samedi.
Est-ce qu'il imitait Elvis avant ou il s'est dit là j'ai un truc à faire, non. Je vais battre le Guinness des records?
C'est un imitateur connu d'Elvis voilà. Presley et okay. Il a performé pendant 50
heures. Donc il s'est pas improvisé quoi.
Exactement, un marathon heures. Musical diffusé en direct voilà. Sur
sans dormir.
Non, sans dormir, sans pause, ni rien.
Rien que ça, c'est la perf.
Incroyable, ah ouais. Incroyable.
Donc, exactement.
Tu nous redis son nom?
C'est Kjell Elvis, le nom de,
Kjell Elvis.
De son.
Kjell, Kjell.
Kjell, pardon, désolé. K-J-E-2-L.
Ouais, le fameux Shell.
Et c'était quand, t'as dit?
C'était en 2020.
En 2020, très récemment.
En juillet ou en août, il me semble que c'était en été quand même. Quatrième fait divers. Une nouvelle étude norvégienne a découvert que les baleines pouvaient jouer un grand rôle pour défendre la planète de manière tout à fait naturelle. De quelle manière? Quelle est cette nouvelle étude, selon vous? C'est un peu dégueu, pareil.
C'est en lien avec ce qu'elle...
Leur déjection.
Exactement. Oui.
Le caca de baleine.
Exactement.
Le caca de baleine.
Qui purifie l'eau
pour la peau.
Voilà. Vous savez déjà tout, en fait. C'est pas marrant, là. C'est...
Non, mais tu peux nous en dire plus.
Oui. Alors, des chercheurs de l'Institut norvégien de recherche marine se sont penchés sur la concentration de nutriments dans les excréments de baleine avant leur dissolution dans l'eau de mer. Les déjections quotidiennes libèrent, selon l'étude, 10 tonnes de phosphore et 7 tonnes d'azote, des nutriments essentiels pour la croissance du phytoplancton, des algues microscopiques, qui par photosynthèse absorbe le dioxyde de carbone pour le transformer en oxygène. Les scientifiques en ont conclu que les excréments de baleine contribuaient à hauteur de 0,2 à 4% de la production primaire quotidienne dans la région de Svalbard.
Et, pas de tunnel à Svalbard.
Hein. Voilà.
Non, surtout pas.
La contribution réelle des baleines est sans doute supérieure car ces estimations n'incluent pas l'urine très chère, très riche en azote, précise l'AFP.
Waouh.
Et voilà. Donc on a en chaque rorqual commun. Un animal de 40 à 50 tonnes à l'âge adulte qui se nourrit par filtration en avalant de grandes quantités d'eau libère plusieurs centaines de litres d'urine par jour. Donc on aurait... C'est vraiment une belle...
belle usine à pipi.
Exactement.
Voilà. En surface, c'est planter des arbres et en profondeur, c'est mettre des baleines. Quoi.
Ouais, exactement. Et faites chier les baleines aussi.
Nourrissez les baleines.
Ouais.
Ok, t'as un dernier petit fait divers pour nous.
Qui, moi, m'a vachement surprise. Mais voilà, donc là, on remonte à 2016, le 22 août 2016. Et à mon avis, vous le savez, hein, peut-être parce que si vous connaissez la Norvège mieux que moi, dans tous les cas, mais Sir Nils Olav a été nommé brigadier de la garde royale norvégienne, l'équivalent en France du grade de général de brigade. Mais il y a une grande particularité chez ce Sir Nils Olav.
Alors, tu dis pas, moi, je connais pas.
Je dis pas.
Quelle est cette grande particularité de Sir Nils Olav?
Est-ce qu'il est aveugle?
Non.
Est-ce qu'il a une déformation physique?
On peut dire ça. Ouais, on peut dire ça.
Il est nain?
Non. Il n'est pas vraiment humain, en fait, surtout.
C'est un chien?
Non.
Non. C'est un renne.
Cécile, c'est pour ça? Ouais.
Ok.
T'as dit quoi?
C'est un renne?
Non.
C'est un renne? Est-ce que c'est un animal?
Oui.
C'est un animal, c'est un cheval?
Non.
Un chat?
Non.
Est-ce que c'est un animal domestique?
Je pensais Norvège.
Ah, mais
Norvège.
La reine, il n'y a que ça.
Non, il y a d'autres animaux.
Ben, un élan?
Non.
Non.
Un canard arctique?
Non.
Ah, tu te rapproches, j'ai envie de dire, tu te rapproches.
Une mouette?
Non.
Un goéland?
Non.
Dédicace à l'émission, on a fait une émission mouette et goéland. Non, mais moi, je donne ma langue au chat.
Eh ben, c'était un manchot royal.
Ah, j'allais dire un pingouin.
D'Édimbourg. Ouais. Cet animal est la mascotte de la garde royale norvégienne depuis 1972, symbole de la coopération entre l'Écosse et la Norvège. Depuis son incorporation dans les rangs en 1982, Sir Nils Olav a gravi tous les échelons. Et en réalité, c'est le troisième du nom qui vient d'être nommé général de la brigade. Le deuxième avait quant à lui été anobli en 2008 à l'occasion de la visite de la garde.
Quel est son rôle?
Et bah, juste là, quoi. Voilà, fait juste acte de présence.
Bon, les gars,
bah, c'est une mascotte, quoi, surtout.
Bah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais il est quand même brigadier de la garde royale.
C'est la mascotte de l'armée, du roi, du pays, quoi.
Ouais.
Oui.
Eh bien, très bien, Mr. Voilà. Sir Nilsson.
Il est très connu, Nils Olav.
Ouais. Nils Olav. Avec ça, on va faire une petite pause. On va écouter Blur, Boys and Girls. Girls who want boys, who like boys, to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys. Oh, I should be someone you really love. Girls who want boys, who like boys, to be girls, who do. Eh bien, c'était Blur, Boys and Girls, le choix de Roxane aujourd'hui. Merci, Roxane.
Plaisir.
On est le 3 octobre aujourd'hui.
Ouais.
Et pour moi, c'est une journée très spéciale parce que je fête les 9 mois de présence en Norvège.
Un enfant, quoi.
C'est ça.
Joyeux anniversaire.
Merci. Ouais. Mais ces 9 mois, c'est aussi 6 mois à vos côtés.
Oh.
Alors, les débuts de l'émission. C'était ce moment où on tournait à peu près à 10 ou 15 auditeurs par Ulysse. On partageait aux parents. Merci les grands-parents aussi. Et puis maintenant, on arrive à ce score incommensurable de 80 auditeurs.
Yes.
Ouais, bravo.
Mais... À vous, nos très chers followers, 13 followers SoundCloud, 40 Instagram. Oui, on a passé la barre des 40. 10 sur Facebook. Pour aller vous chercher, on en a fait.
Ah, avec ça va faire 11, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Emma, elle s'est perdue 2 fois dans le métaverse. Une fois, c'est parce qu'elle pensait parce que les Vikings la retenaient en captivité au Finnmark. On a dû l'échanger contre les paires de skis au pied du Gasthaus Open. Enfin bref, un bordel. Et l'autre fois, c'est parce qu'elle s'était endormie dans une salle de concert virtuelle où la chanteuse Aurora reprenait du Barbara en Samy.
Bref,
on a dû attendre finalement qu'un joueur de métal accepte de se connecter. Joyeux anniversaire, hein, du coup.
Merci.
Suzanne, elle s'est tapée l'équivalent d'une année de montage. Et c'est pire qu'Interstellar, ce truc. Une minute d'écoute de la chronique sur la constitution norvégienne et c'est 3 mois de votre vie qui fondent. Alors, c'est assez marrant d'utiliser le mot fondre pour ça, parce qu'en fait, la constitution a été rédigée en avril et les routes étaient trop enneigées pour que tous les participants se retrouvent. Ok, non, enfin, je passe, je casse la dynamique. Et Alice, notre première étudiante Erasmus. Elle a dû passer toute la nuit du 31 mars à moins de 15 degrés au barcode pour étudier la consommation de coke des Golden Boys norvégiens parce qu'on voulait copier les enquêtes d'action sur W9. Mais je suis sûr qu'elle n'est pas rentrée à Lyon. Elle nous a juste fait une fuite pour passer tranquillou son semestre Erasmus et chercher les bières qui étaient les moins chères à Oslo, comme tous les étudiants de son âge. Et puis du coup, en parlant de ça, Roxane, la dernière arrivée qui a dû se tuer la santé pour se taper après 7 heures de route une ascension du Trolltunga pendant 4 heures, 900 mètres de dénivelé, 20 kilos sur le dos, pour un réveil à 6 heures du matin, à 8 degrés, et c'était la fin août. Hein. Car franchement, ça vaut le coup 13 minutes de lever de soleil quand il n'y a pas de nuages. Alors l'accent norvégien ressemble un peu à l'allemand à 6 heures du matin.
Ouais,
c'est
ce que j'allais dire.
C'est une précision culturelle.
Il va falloir travailler un peu.
Alors, la pauvre, on l'a vu arriver à Björvika, fauteuil roulant, et on a dû accrocher sa sacoche de perfusion au micro pour qu'elle claque pas un malaise pendant sa chronique. Ah, et puis moi, hein, qui me retrouve à essayer d'expliquer l'histoire d'un pays de 4 millions d'habitants, qui certes sont défoulés un peu pendant la période des Vikings, mais qui se retrouvent à un moment réfléchi, neutre, pacifiste et amoureux de la nature et du Brunost pendant toute la suite. Et voilà que je me retrouve comme un con à essayer de rendre palpitant une histoire d'indépendance, de peste noire et d'élections départementales scandinaves. Et je veux dire, à un moment, ça s'apparentait à faire une adaptation de La vie d'Eva Jolie en cinéma de 4D, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que la vie du podcast a fait partie de cette grande phase de découverte de la Norvège pour moi. Et quelle découverte? Alors, je me suis proposé de faire des petites catégories pour synthétiser tout ça, parce qu'en histoire, on aime bien les dichotomies aussi.
Ouais, vas-y.
Alors, d'abord, vu que j'ai pris le métro, parlons du transport. Alors, si vous attendiez déjà à tomber dans un pays écologique, alors vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Il faut savoir qu'ils peuvent passer une semaine à dormir dans la forêt sans rien abandonner par terre. Mais je suis désolé de vous annoncer qu'on est dans un pays qui est autant écolo que moi je suis fluent en norvégien. Mais que d'avions ? Le moindre bled est relié à Oslo par un A320 qui fait des liaisons 3 fois par jour et qui est rempli au quart. Les mecs par personne y voyagent autant que Bernard Arnault, Pouyanné, Bolloré réunis. Et au Bourget, on a Extinction Rébellion qui va faire un tarmac humain juste pour les empêcher de décoller. Alors, soyons fiers aussi. La géographie n'aide pas pour se déplacer en train. Ça, je le concède. Parce que le train, justement, putain, mais 8 heures pour faire un Oslo-Bergen. En avion, c'est 1 heure. T'as même pas le temps de prendre un café. Limite, je pense qu'un financier a déjà pensé à faire un détour de l'avion rien que pour les passagers prennent leur petit vin chaud au duty-free. Bref. Et enfin, les bus de ville. Ah, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un fameux seuil de passagers à partir duquel il est toléré de s'asseoir à côté ?
Les bus sont bondés, oui.
Ouais, mais il y a un moment, genre quand ils voyagent vide,
ouais.
Alors, les gens ils s'assoient, personne ne s'assoit à côté d'eux. Non, et puis à un moment, il y a ce seuil, ouais, ouais. Peut-être de 100, enfin, non, ouais. Peut-être pas de 100, mais je sais pas, 45 ouais. personnes. Ouais. Et là, on accepte de pouvoir s'asseoir à côté de quelqu'un. Cela dit, ça devient quand même nécessaire de s'asseoir parce que les gens essaient quand même de conserver leur espace social, même en heure de pointe. Et dans cet espace social, on exclut l'aparca, bien sûr. Mais de toute façon, tout cela vole en éclats, car les bus électriques sont maintenant là, et si le chauffeur a décidé de faire du 0 à 100 km/h en 5 secondes 5, et de prendre ensuite le virage en drift comme dans Need for Speed, il le fera. Mais bon, continuons et passons à la météo, parce que malgré ce petit été indien, on a tendance à oublier que l'été était plutôt bien pourrave. Hein. 2 mois avec de la pluie, même avec un 20 degrés quand même, mais bon. Le tout couronné d'une tempête jamais vue en 50 ans. Alors, il faut être quand même gentil avec Hans, parce que grâce à lui, on a eu des lacs pleins à ras-bord qui ont permis de faire en sorte que les barrages tournaient à plein régime et d'avoir des factures électriques quasiment à prix négatif.
Voilà, très bien.
Merci Hans. Tout ça sera bientôt derrière nous, car l'hiver arrive. Et l'hiver, ça veut dire les jours sombres, le froid, la glace sur laquelle on glisse, sauf la Gen Z norvégienne qui marche en sneakers. Puis, la neige qui va permettre aux Norvégiens de pratiquer un peu de ski de fond entre deux siestes. Parce que pour moi, les Norvégiens, ce sont carrément des zombies en hiver. Avec de telles variations de température, on se retrouve avec des chats qui, après 6 mois d'hibernation, sortent enfin de le museau en mai. Et en arrivant en janvier, je pensais vraiment qu'il n'y avait pas chat dans ce pays. Par contre, les chiens n'ont pas de soucis. On peut les voir faire du ski de fond en hiver et courir comme des dératés en été. Mais vu qu'on parle de chiens, parlons aussi de leur maître. Parce que oui, à Oslo, dans les rues, on va sûrement voir ce duo chien d'eau portugais, norvégienne blonde dans les rues. Alors, la caractéristique de ce duo est que pendant les jours sombres d'hiver, les deux peuvent être difficiles à apercevoir, car oui, le chien ne change pas de couleur, il est tout le temps noir. Mais pour la maîtresse, l'hiver est aussi la saison où elle va remplacer son habit blanc, d'été donc, par un habit noir. Elle entre dans une forme de deuil qui dure entre 4 et 6 mois. Mais heureusement, il y a cet artifice réfléchissant qu'on peut apercevoir de loin. Je parle bien sûr de la couleur de cheveux de blanc décoloré. On a tendance à être un peu dépaysé, mais heureusement, il y a Erna Solberg qui nous ramène un peu en France avec ce petit scandale de conflit d'intérêts ou de corruption. Enfin, je ne suis pas spécialiste là-dedans.
Télé-initiée.
Merci. Donc, première ministre norvégienne de 2013 à 2021. Et pendant qu'elle travaillait, il y a son mari qui se disait « Tiens, ça serait bien de placer en bourse. »
Oui.
Oui. Sauf que parfois, il était peut-être un peu au courant des affaires qui se passaient aussi. Par exemple, une pandémie qui arrivait et un lockdown qui devait se mettre en place. Bon, ça joue un peu parfois sur le cours de la bourse. Et du coup, on se retrouve avec un mari de Premier ministre qui fait des opérations financières par milliers et qui s'est fait, je crois, à peu près 1 600 000 couronnes. Alors, bravo finesse. Mais du coup, maintenant, Erna, elle se retrouve finalement comme la position de nos chers politiciens qu'on a quittés en France. Bref, voici mes petites observations que je ne manquerai pas de compléter lorsque je n'aurai pas eu le temps de lire une partie de l'histoire chiante de la Norvège. Merci.
Ah, super, Valentin, merci beaucoup. Des réactions ? Ouais ! Des réactions autour de la table ?
Super, très émouvant.
Merci. Très émouvant, ouais.
On t'a senti bien engagé. En fait, ouais. Merci beaucoup, Valentin. On va faire une petite pause musicale avec ton choix des Vents Passent, Chirac en prison.
Rien ne lui fera changer ta vie. Je ne sais pas ce qu'il y a pris, car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison. J'attends 2007.
Eh bien, de retour dans notre émission. Maintenant, on va se tourner vers toi. Cécile, pour ta première chronique.
Ouais.
Le micro est à toi.
Merci beaucoup. Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de voitures à Oslo parce que j'ai un peu une approche schizophrène de la question. J'ai vécu très longtemps en Norvège et je suis toujours très fière de dire à mes copains parisiens que Oslo a été la première capitale verte d'Europe. Les temps ont quand même un peu changé depuis. La mairie vient de changer et de repasser à droite. Et je suis toujours une électrice déçue quand le milieu parti MDG, le milieu écolo, ne passe pas. Mais ma vie de maman de trois enfants stressée avec une voiture à essence donne une forme de schizophrénie à mon approche de la question. Je roule en bagnole, je casque à tous les péages, tous les parkings, et pourtant, je vote MDG. Et je pense que mon problème est devenu un peu structurel quand j'ai commencé aussi à me prendre des amendes et à me dire c'est parce que je l'ai mérité, c'est parce que je roule en essence. J'arrive pas à savoir ce que je veux. Mon cœur dit qu'il faut voter, que c'est le minimum de voter écolo, et ma tête de maman qui n'a jamais le temps de rien faire a toujours besoin de ma grosse voiture pour trimballer toute ma progéniture. Ceci étant dit, faire trois enfants pour la planète et qui ont deux nationalités, fait six pour l'Europe, voilà. C'est trop. C'est trop.
Base, ouais.
Voilà. Et là, je pense que ma dernière. Ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est que j'ai encore eu un épisode complètement abracadabrant en voiture en Oslo. Il est toujours très compliqué de stationner et on a une amende. Parfois, on ne sait même pas pourquoi et après, on comprend qu'on était trop près de tel angle, de tel passage pour piétons et on n'avait pas compris. Et là, cette fois-ci, il m'est arrivé un truc complètement loufoque. Le jour de la rentrée des classes, j'ai garé ma voiture. On a une vieille voiture, tu sais, avec un. Une boîte de vitesse, une voiture que tu ouvres à la main, là. Un truc, t'étais pas né, Roxane.
Si, je sais conduire, celle-là.
Et en fait, il y avait mes parents qui étaient là, parce que ma fille aînée rentrait au CP, donc c'était un big deal, et je me suis garée rapidement, j'ai fait un petit créneau à la parisienne, là, clac, clac, hop, hop, serré dans une rue en pente. On est allé dans l'école, parce que c'était le jour de la rentrée. Je vois que mon téléphone sonne dans ma poche, je me dis, on s'en fout, rien ne va gâcher le moment de la rentrée des classes. Je la vois monter dans la classe, mon téléphone sonne encore, je me dis, ils me font chier, ces trucs de téléphone sorgue, là, je l'éteins. Et quand on revient vers la voiture n'était plus là.
Oh non !
Et mon père était mort de rire parce qu'il me dit, regarde où est la voiture. La voiture avait roulé dans la rue parce que j'avais pas bien serré le frein à main. Et elle était allée doucement mais sûrement avec une vitesse qui s'accélère, percuter une autre voiture, une dentiste en Tesla, évidemment.
Ah ben.
Vénère parce qu'elle me dit, mais j'ai klaxonné jusqu'à me rendre compte que je suis en train de me faire écraser par une voiture qui était vide.
Oh la loose!
Conduite par un fantôme! Donc me voilà faire la déclaration, et je pense que l'histoire, je vais la terminer là, a été le truc le plus ironique de l'histoire. C'est que la première question de la déclaration à l'assurance, je vous assure que c'est vrai, c'est est-ce que vous étiez passager ou chauffeur? Merci beaucoup!
Ni l'un ni l'autre. Merci beaucoup, Cécile.
Qui a donc un morceau pour illustrer quand même ce beau. C'est ça?
Oui, on va écouter. Non, mais je voulais poser une question, si ça vous donne envie d'avoir une voiture.
Ah non, moi, j'en veux pas, justement. Déjà, j'ai eu une voiture peu de temps à Paris. Ça m'a suffi.
Ah bah oui, forcément.
Bah, et ouais, non, à Oslo, là, y a toutes ces lois. Là, faut être à 5 mètres du trottoir.
Kafkaïen, mais c'est volontaire. Hein.
Ouais.
C'est parce qu'il y a des gens comme moi qui votent MDG.
C'est la punition.
Mais pourquoi ne pas avoir pris une voiture ? Pourquoi ne pas prendre une voiture électrique aussi ?
Roxane, quand je serai riche avec mes spectacles d'humour, je m'achèterai une grosse Tesla et promis, je t'emmènerai en voiture dedans.
Mmh. Ah ben justement, tu peux nous parler déjà de tournée.
Ah oui, alors je fais un petit coup de pub. Merci pour le. C'est clair, la perche bien saisie là. Merci Suzanne. J'avais vraiment pas du tout envie de vous faire de la pub, mais puisque je suis obligée de vous parler de ça, je suis en tournée en France, excusez-moi, je suis en tournée en français et en norvégien, mais je vais faire la tournée en français. Je suis en tournée en français, j'ai un spectacle à Trondheim demain, mais il est complet, mais j'ai un spectacle à Tromsø vendredi où il reste des places. En français, s'il y a des gens à Tromsø qui nous écoutent.
Ou des gens à Oslo qui veulent prendre l'avion.
Oui.
Aussi.
Et les tunnels.
Vos MDG.
Les tunnels bientôt, oui.
Et puis ensuite, je reviens avec en tournée dans toute la Scandinavie avec un membre du Jamel Comedy Club qui est très drôle. Donc, on fait une tournée à deux à Oslo, Göteborg, Stockholm, Copenhague et Stavanger. Et ça, c'est fin novembre. Donc, si vous voulez trouver les dates, cecilemoroni.com, c'est mon site internet. On est hyper rigolo et il reste des places en français pour rigoler à Oslo et à Stavanger en Norvège.
Yeah! Wouh ! On sera là, on sera là.
Ok.
Oui, bon.
Non, on va faire une petite pause. On va écouter Jo Dassin à Paris à vélo.
À Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. À Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans Paris, on dépasse les taxis. À Paris à vélo, on dépasse les autos. À vélo dans
bien de retour dans Brisons la glace, le podcast francophone à Oslo, en Norvège. On est de retour, on enregistre en ce moment à la bibliothèque Bjørvika. Si jamais vous voulez réagir aux chroniques de chacun et chacune, pensez à nous contacter, hein, nous suivre sur Instagram, Brisons la glace, tiré du bas PFN ou PNF, je ne sais plus. On n'a que toujours des followers, des commentaires,
des bisous.
Des bisous, j'allais dire des bisous, on s'est fait un regard comme ça, on s'est compris. Ok, soyons sérieux maintenant. Pour ma chronique, j'ai décidé de m'attaquer à un monument d'histoire, que dis-je, de cinéma, de musique, de culture, de la vie. Oui, aujourd'hui, parlons des Gérard. Oui, parce que le 3 octobre, c'est la Saint-Gérard.
Bonne fête, Gérard.
Voilà, on a tous des Gérard dans notre vie qui nous ont influencés, inspirés, nous ont fait rire ou pleurer. Alors, il est temps de rendre à Gérard ce qui est à Gérard. On va faire un grand quiz ensemble, 3 manches, une manche d'abord individuelle, une deuxième manche en face à face, et une dernière manche en équipe. On vous êtes 3, on va voir comment on va faire les équipes.
C'est du gros sérieux en fait.
Ah non mais attendez.
On peut avoir un ami imaginaire.
On peut avoir un ami imaginaire.
On peut demander à Cécile d'avoir un ami imaginaire.
Très bien. Alors, pour la première manche, c'est une question où il n'y a pas de rapidité, vous pouvez réfléchir à la réponse et me donner chacune votre réponse. Okay. Donc c'est un peu le round d'échauffement.
Il faut être prêt sur les buzzers là.
On n'a pas besoin de buzzer, je vous le dirai juste si vous avez.
J'ai posé.
Ok, alors vous pouvez buzzer. Non, pas de souci, vous pouvez buzzer si vous. Alors, première question, réfléchissez bien. Quel est l'âge moyen des Gérard en France?
53 ans.
61 ans.
77.
Ah, c'est toi qui gagne, c'est 72. Okay.
Ouais. Wow.
Il faut que je compte. Ah, il faut que je compte les points.
Emma, un point. Tu veux que je compte?
Ouais, vas-y, tu mets un point pour Emma.
Un point pour Cécile, c'est ça que t'as dit?
Deuxième question. Attention, réfléchissez. Selon une estimation du site politologue.com, combien il y a de Gérard en France actuellement?
Ouh. 22 212.
47 381.
Alors, c'est la moyenne 70 ans, 60 000.
Ok, je vous donne une deuxième chance.
Attends, c'est plus ou moins nombreux.
C'est plus. Ah oui, c'est beaucoup plus. Alors réfléchissez un petit peu mieux.
Bon.
Vas-y, Emma. J'aurais jamais dû vous donner les chiffres.
377 000.
1 283 581.
270 000. Ah, c'est toi qui gagne, Roxane, avec 296 233. Oui, Gérard en France actuellement.
Ouais. Madame, je connais pas de Gérard, en fait, tu les connais tous, t'as juste compté dans ta tête, là.
Ok, alors, question piège ou pas? Attention.
C'est noté, un point pour Roxane.
Toujours, selon le politologue.com, combien de filles ont été nommées Gérard depuis 1900?
Oh la vache. Oula. Bon.
Depuis 1900.
12 pour Emma.
Attends, donc entre 1900 et 2023.
Oui.
Sur 100. Okay, okay.
Combien de filles ont été nommées Gérard?
2500.
2500.
17.
T'as dit quoi?
12.
Ok. T'as dit quoi?
2500.
Bon, c'est Cécile qui gagne le point, mais c'est 290.
Okay. Ah, c'était beaucoup plus quand même. Alors là, pour le coup, moi, j'ai jamais rencontré une Gérard. Non.
Mais
sur 123 ans, quand même, je me dis.
Précision, le prénom Gérard n'a pas été donné à des filles après 1968.
Ah.
Super. Fallait le préciser.
Ah oui, ça vous aurait aidé. Ok. Maintenant, question de rapidité. Là, vous pouvez buzzer, ou taper dans votre xylophone ou votre sonnette.
Si le câble du casque n'est pas sur le xylophone.
Mais faites en sorte qu'il n'y ait rien qui bloque votre buzzer. Attention, Cécile, est-ce que tu es prête?
Je suis prête.
Quelle est la région/ville où il y a le plus de Gérard qui sont nés?
Clermont-Ferrand.
Non.
Rennes.
Non.
Montpellier.
Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais Paris. Oh là 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 là. 43 000 naissances de Gérard depuis 1900.
Ok. Qu'il y a eu. Si je commence à faire des questions, nombre de Gérard, d'enfants nommés Gérard en 2023, on sait ou pas?
Non, apparemment, il n'y a pas beaucoup de Gérard. C'est en déclin. Le prénom Gérard est en déclin. Ok, bon alors pas de point. De... Je rajoute une question.
On est punis, tu sais.
Non, je rajoute une question. Peut-être que vous allez y arriver. Qui est à la deuxième place après Paris?
Bah, Lyon ou Marseille?
Lyon.
Lyon ou Marseille, du coup.
Lyon, bah alors, c'est Lyon ou Marseille?
Ah bah ça dépend, moi je suis lyonnaise, donc on est les deuxièmes.
C'est Lyon plus que Marseille, je dirais.
Ah okay. Ouais, merci, merci.
Ou la... Quimper, je sais pas, j'ai aucune idée.
Rouen.
Ok, c'est une région.
Ah, c'est une région. La Bourgogne.
La Bretagne. Et toi, tu dis quoi?
L'île de France.
Et c'est Nord-Pas-de-Calais. Oh là 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 là.
Oh là là.
La souffrance. Bon.
Mais il est dur ton quiz aussi sur les Gérards là.
C'est pas sûr. C'est...
Question de rapidité. Quelle est l'origine du prénom Gérard?
De l'allemand.
C'est comment c'est... Oui, de l'allemand.
Gérard.
Ouais, je te donne le point. Origine germanique qui se compose des éléments germaniques de guerre, c'est lance, et horde, dur, fort.
Ah.
Dernière question pour cette première manche.
Attends, du coup, ça fait
un point pour Emma.
Ouais. Ah oui, pardon.
Et t'oublies pas les points.
J'oublie pas les points.
Ok. Dernière question de rapidité. Pas de rapidité, une réponse par personne. Quelle est l'année d'or pour la naissance des Gérard? C'est pas de rapidité. Vas-y, Emma.
Donc, si la moyenne, c'est 72.
Ouais. C'est clair.
Oh, les maths. Ouh.
Du coup, c'est 1951.
1942.
53.
Et Emma gagne le point, c'est 1949.
Oh là là.
Pas loin, Emma... deux ans près. Ouais. Alors, quels sont le rappel des scores?
Ouais. Emma, 3 points. Roxane, 1 point. Cécile, 1 point.
Okay. Ok, très bien. On passe au face-à-face.
Roxane lance fort, quoi. Et Emma lance fort.
Alors, on va commencer un duel entre Cécile et...
Je sais pas si je vais y arriver.
Et Roxane. Okay,
okay, donnez-moi ça, un chiffre entre...
Petit papier et tout, là, il faut que vous sachiez.
Ah, mais attends, mais j'ai préparé mon truc, moi. Ouais. Un chiffre entre 1 et 7, Roxane.
5.
Ok, je trouve le 5. 4, 5, c'est là. Ok, alors, c'est... Il faut trouver de qui je parle. Ok. Donc, c'est en mode question pour
ah,
un
ouais,
champion.
Là.
Ah, c'est là où... Ok.
C'est attends. Le je suis. Ok, donc je vais lire l'histoire de cette personne. Et on peut faire au buzzer. Ok. Né en 33 à Valladolid, fils d'émigré espagnol, je commence ma carrière comme bibliothécaire au Centre culturel espagnol de Paris. Je débute sur le grand écran dans le film.
Gérard Depardieu.
Non. La meilleure part en 56, film d'Yves Allégret.
Gérard Darmon.
Non, il interprète des petits et second rôles sous la direction de Jean-Jacques Arnaud, Jacques Becker. Je débute aussi le doublage dans l'animation et deviens la voix de Jacques Dalton, du Grand Schtroumpf, du professeur Moriarty, d'Isnogood, de Gomez, de la famille Adams. Il double Danny DeVito, Woody Allen et de nombreux autres acteurs. En 2002, il passe par la case télé, prenant le rôle du commissaire Perrault dans la série Père et Mère. Son succès populaire est tardif avec son rôle aux côtés de Marion Gaines dans la série M6 Scène de ménage. Je suis...
Gérard Dutroux.
Gérard Hernandez.
Ah, mais ah oui.
Zéro point.
Ça t'avait dit d'origine espagnole.
Bah oui, mais c'est le mec.
Ok.
Attends. Dans son ménage.
Ok, on va faire un duel entre Roxane et Emma. Emma, donne-moi un chiffre de 1 à 7 en enlevant le 5.
De 1 à 7 en enlevant le 5.
Oui, le 5 est déjà pris.
Ah. Allez. Oui, pardon. 3.
Le 3, ok. Oh, plus dur. On va voir si vous y arrivez. Pour l'instant, 0 point. Né en 1919 à Paris, je suis fils d'un violoniste juif et d'une critique d'art au journal Paris Soir. En 38, j'entre au conservatoire et deviens pensionnaire de la Comédie-Française l'année suivante. Mon premier rôle est dans Britannicus. Durant la guerre, je fuis à Genève. Je ne reconnais pas ma fille, Danielle Thompson, pour lui éviter des ennuis. Revenu en France, je joue avec
Gérard
Bourville.
Gérard Thompson ?
Non, avec Bourville, dont il reçoit des claques. En 58, je m'essaye au scénario et rencontre Michel Morgan, qui devient ma compagne. En 60, je réalise mon premier film, La Main Chaude, puis La Menace. Je fais tourner Louis de Funès et Bourville dans Le Corneau, qui devient un succès avec 12 millions de spectateurs. Je tourne ensuite La Grande Vadrouille en 66, numéro 1 du box-office français, détrôné uniquement en 98 par Titanic, année où je suis élu membre de l'Académie des Beaux-Arts. Je meurs en 2006 à Saint-Tropez après 18 films réalisés, dont L'As des As et Rabbi Jacob.
Gérard
Ça commence par un O.
Audrey.
Ouri.
Oui.
Putain.
Bon, je vous aide un peu.
Solidissime.
Voilà.
Mais bien sûr, je le savais en plus.
Ah là 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 là. Ok. Duel entre Emma et Cécile. Un chiffre entre, ben voilà, entre 1 et 7, sans le 3, sans le 5.
C'est auprès de mon père qui va écouter.
Le 1.
Parce que j'ai été éduquée avec Gérard Oury et il va m'engueuler.
Ah voilà, tiens, c'est là.
On a tous regardé ses films. Bah repense, oui, à tous les Gérard.
J'ai jamais
repense à tous les Gérard.
Honte sur ta famille. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes prêtes, Emma et Cécile?
Ouais.
Oui.
Ok. Née en 48 à Paris, je passe ma jeunesse rue des Artistes où j'y trouve ma vocation. J'abandonne mes études avant le bac et je pars vivre 4 mois en Israël. En 72, je me produis dans les cafés-théâtres aux côtés de Jean-Pierre Bacri. L'année
Gérard
suivante...
Gérard Darmon.
Oui.
Ah ouais, bien joué. Solide.
Bien.
On a une gagnante du quiz là.
Ouais.
On continue un round?
Oui.
Oui.
Ok, allez. Cécile, Roxane, Roxane, allez, un chiffre?
Ok, ce serait assez... Cécile, t'as choisi un chiffre.
J'ai choisi un chiffre, ouais, déjà, ouais. Il reste quoi comme chiffre?
Il reste 4, 7, 6 7. Et 7.
T'as dit?
Attends, faut que j'ai terminé.
Ok. Né en 87 à Barcelone, d'une mère neurologue et d'un père d'homme d'affaires, je mesure 1m94. Mon grand-père étant l'ancien vice-président du FC Barcelone, je signe au club en 97. En 2004, je pars à Manchester avant de repasser par la case Barcelone jusqu'à la fin de ma carrière en 2022. En 2008, je gagne le triplé championnat Coupe Ligue des Champions. Surnommée El Presidente, je rencontre Shakira avec qui j'ai 2 enfants.
Ça me saoule, je suis nulle. Bien sûr que oui.
C'est pas
non, je, sais. Moi, je suis un footballeur espagnol.
Mais je sais pas.
Ça commence par un P, son nom de famille. Gérard Piquet.
Piquet.
Ah là 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 là.
Ah, j'aurais dû
faire ça.
Ok, on fait un dernier quiz entre Roxane et Emma. Est-ce que vous êtes prêtes?
Ok.
Celui-là. Né en 62 à Choisy-le-Roi, je fais ma première apparition en 87 dans un rôle de culturiste. En 92, je suis embauchée par les Nuls pour interpréter Jim. En 93, j'escorte Jean Reno dans le film Les Visiteurs. Mon grand succès viendra de la sitcom où j'incarne Gérard Nacutel, un réceptionniste de la salle de sport et prof de gym stéréotypé gay dans Les Filles d'à côté. Je deviens ensuite animateur télé pour Drôle de jeu, Le Quiz ou encore Fort Boyard. Je reviens en 2009 dans Le Juste Prix où je participe à Danse avec les Stars en 2012. Je suis.
Ah bah là, je
alors là,
c'est le petit de mon petit Gérard dans Les Filles d'à côté.
Et oui.
J'aurais jamais retrouvé son nom.
Gérard Vivès.
Bah oui.
Oui, bah vrai. Alors là, bon bah là, désolé Gérard.
Pardon. Désolé Gérard.
Ouais.
Ok. Dernière manche. Alors quels sont les scores, Cécile?
0.
Bah, franchement, Emma est très très difficile à battre, donc j'ai bien peur qu'elle soit largement en tête.
Là, il y a 4.
Bien. Alors on va faire
malgré les questions où on a séché.
Bah, ok. Alors on va faire une équipe Roxane, Cécile contre toi Emma, ouais, parce que toi tu gagnes donc wow, voilà. Donc vous êtes ensemble. Okay. Donc la manche c'est Junio, Depardieu ou les deux.
Ok.
Ok. Donc c'est une question de rapidité. Il faut buzzer et donner la réponse.
Okay, okay.
D'accord.
Ok. Est-ce que mesdames et messieurs vous êtes prêts?
Ah oui, on buzz. D'accord.
Donc c'est du buzz. Donc là okay, vous buzzer et après vous donnez votre réponse. Si c'est faux, ça donne le point à l'adversaire. Okay,
ok. Ok. Donc c'est Depardieu, Junio ou les deux.
Depardieu, Junio ou les deux.
Ok.
Ok. Chauve.
Junio.
Oh le blanc. Ok. Un point pour Emma. Astérix et Obélix.
Les deux.
Oui. Bien. Tu comptes les points.
Je compte
c'est
les
un
points.
Peu dur de participer et de. Ok. Troisième. Cyrano.
Depardieu.
Oui. Oui. Bronzé.
Les Junio deux.
Non.
T'as dit quoi?
Junio.
Oui.
Quoi,
t'as dit tu les deux. Non.
C'est une question de statistique.
C'est clair. Quand on est QCM où tu mets du un peu de A, un peu c'est de ça. B, à la fin, tu te dis, y a pas eu trop de C.
Ok. Cinquième question. Alcoolique.
Les deux.
Les deux.
J'ai marqué deux par Dieu. Donc zéro point. Ok.
Attends.
On n'en sait rien en fait.
On n'en sait rien.
On en sait
mais
rien.
Depardieu a été arrêté plusieurs oui, fois à cause de ses accidents à plus de 2 grammes avec sa moto. Bon, donc c'était. Voilà. Backstory. Ok, réalisateur.
Les deux.
Oui. Le blanc saisi. Mais oui, vous êtes à deux, c'est bien. Oui, c'est oui, bien. Oui, oui, une qui peut buzzer, une qui peut répondre. Ok, on a fait les scores, c'est bon?
Ouais, on est à 4-1, Emma. Je suis désolée, là, c'est la revanche des nuls.
Ah, bah, ouais, c'est ouais, pas grave. Hein,
ok,
j'ai
attention.
Aucune dignité.
Attention, question suivante. Monsieur Batignol.
Junio.
Oui. Le Splendide.
Les deux.
Ah bah non, Junio. C'est Junio. Point à Cécile. Emma, faut que tu te reprennes là. Ouais, ouais. Ça fait 6-1.
6-1.
Ok, attention, prochaine question. Les valseuses.
Depardieu.
Ouais. On te l'accorde. Je pense qu'elle avait buzzé avant, mais t'as parlé avant.
Je pense que c'est à peu près en même temps.
Ok, un point pour Emma. Qui a joué dans Boudu?
Depardieu.
Les deux points pour Emma.
Je sais pas ce que c'est, je dis au pif.
6-3.
Okay.
La remontada d'Emma.
Oh, la remontada. Encore 3 questions. Qui est instable au niveau de sa religion et, sa... et la politique?
Depardieu.
Oui.
J'ai juste mis instable, je me suis dit, oui, j'ai oui, précisé.
En fait, je t'arrête à instable, c'est bon.
Instable, on aurait trouvé.
Ok, attention, deux dernières questions. Qui est chevalier de la Légion d'honneur?
Depardieu.
Les deux.
Les deux.
Ok, et dernière question pour ce grand quiz. Qui a été marié 3 fois?
Depardieu.
Et non, c'est Junio qui a été marié 3 fois. Depardieu a été.
Gros des cœurs de Junio. Ouais.
Il n'a pas été marié, je ne pense pas qu'il soit allé jusque-là.
Voilà, Depardieu n'a été marié qu'une seule fois.
De toute façon, c'est un sujet sensible en ce moment. Si on se veut un bras féministe, les copines.
Non, mais oui.
Voilà, c'est la fin de notre quiz.
Bah, attends, mais qui a gagné là? Qu'est-ce que t'en
sais? Ah, pardon, oui, alors trouve la. Alors, qui a gagné les comptes?
Ah, bah alors, le premier quiz, c'est largement Emma qui
l'emporte. Non, les totos.
Ah, bah du coup, ouais, mais c'est un peu vache parce qu'il y avait des questions qui étaient plus fastoches dans le deuxième quiz.
Ah, bah oui, mais bon, c'est pas grave.
Ah, bah dans ce cas-là, c'est.
Les totos, les 3 manches.
Bah du coup, dans ce cas, ça fait 6 points pour Emma et ça fait, si on se met ensemble, ça fait 9 points pour nous deux. Mais si on divise par nombre de personnes.
Ça fait 4,5.
Ouais,
du coup.
Ça fait quand même. C'est plutôt Emma qui a gagné.
Emma a gagné.
Non, c'est
Emma
qui a gagné. Bravo, Emma.
Moi, je pense que c'est Emma qui mérite la victoire.
On a tous gagné.
Tout le monde a gagné. Bravo pour votre participation. On va écouter Gérard Blanc, une autre histoire. Retour dans notre émission de Brisons la glace. On a bien rigolé avec la Saint-Gérard. Voilà, vous avez eu un petit coup sympa. J'espère que vous avez participé de chez vous. On va terminer l'émission avec toi, Emma. Tu nous as dit que tu as demandé de l'aide à ChatGPT.
Bah oui, tu nous as mis la pression. Il va y avoir une humoriste, il va falloir être rigolo, tout ça. Alors bon, bah j'étais pas très inspirée. Alors j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour être drôle? Bah je vais demander à ChatGPT. Hein, Donc, vous allez pouvoir juger si tous les conseils ont été appliqués. Donc, le premier, c'était opter pour de l'humour léger.
Ah,
les blagues qui ne sont pas offensantes et qui ne touchent pas à des sujets sensibles ont plus de chances de faire mouche.
Ok. Oui.
Donc,
oui et non. Ça dépend du public.
Du coup, j'ai demandé quelles sont les meilleures blagues sur les Norvégiens à ChatGPT.
Ouais.
Hein, donc, bon, manifestement, c'est quand même traduit de l'anglais. Donc, bon, on est sur de l'humour léger.
Oui.
Vous allez me dire. Hein.
Okay.
Quel est le groupe de musique préféré des Norvégiens?
Aha.
Abba.
L'autre, ouais. Abba. Mais pourquoi?
Parce qu'ils sont suédois?
Non, c'est parce que c'est les initiales de Akureyri, Bergen, Boudo et Arendal.
Ah, quelle horreur.
Oh, avec Yud.
Ça, c'est une blague.
C'est une blague selon ChatGPT.
Ben, tu vois, ChatGPT peut piquer le boulot des médecins, il peut piquer le boulot des avocats, mais en tant qu'humoriste, t'es encore un peu au chaud avec l'intelligence artificielle.
Ouais, pourquoi les Norvégiens sont-ils toujours détendus?
Parce qu'ils sont sous l'exomil.
Ben non, c'est parce qu'ils ils pratiquent le fjordzen.
Le fjordzen.
En fait, c'est plus à la limite, plus factuel qu'autre chose, quoi.
C'est léger, mais c'est loin.
C'est,
quoi.
Ouais, c'est pas drôle, quoi. Y a pas,
non,
c'est
bah, pas drôle. Bah voilà. Bon, bref, écoute. C'était le conseil numéro 1. Bon, voilà.
Non, merci.
Le conseil numéro 2. Choisissez quelque chose de pertinent. Donc, on a bien vu, le premier, ça marchait pas tellement. Mm-hmm. Une blague qui se rapporte à la situation ou à l'événement en cours le plus susceptible de faire rire.
Ah.
Donc, du coup, bah, j'ai été chercher des expressions norvégiennes un peu absurdes.
Ouais, ça va nous aider, ça.
Ah, ben voilà. Alors, donc, vous la voulez d'abord en norvégien ou pas?
Oui.
Når det regner på presten, dripper det på klokkeren.
Quand il pleut... t'as dit quoi? Quand il pleut à fond?
Når det regner på presten,
dripper det på klokkeren.
Ah, bravo. Bravo. Quand il pleut sur le prêtre. Avec un accent parfait, ça c'est bon.
Quand il pleut sur le prêtre.
Ça arrose les... C'est quoi Clockeden? C'est le cloître.
Le bédo.
Le joint.
Ça arrose le joint.
La bûche, la
moi, j'ai pas compris.
Quand le bâtiment tout va, en gros, c'est l'équivalent de ça.
Ok.
Voilà, quand le prêtre.
Parce que le prêtre, il se fait pas mouiller, c'est ça, en général. D'accord. Ouais. Ok.
Ensuite, il y avait une autre expression. Aussitôt poillardeux, un ikke en sport.
Ah, j'ai raté le début. Tu peux la refaire?
Aussitôt poillardeux, un ikke en sport.
J'ai toujours pas compris.
S'asseoir sur la barrière n'est pas un sport.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire qu'il faut. Il faut trancher,
c'est ça? Il faut choisir son camp?
Ouais, il faut choisir son camp.
Oula! Bon. Mais attends, heureusement qu'on t'a invité, en fait. Cécile, hein, parce que.
Et là, on cherche des expressions norvégiennes drôles.
Je cherchais quelque chose de pertinent.
Okay. Ah. Là, on n'est plus dans le drôle, on est dans la pertinence.
Okay. Bon.
Okay. Ah.
Bon, conseil numéro 3, utiliser des jeux de mots.
Ah.
Donc, les calembours et les jeux de langage peuvent souvent être très drôles et bien reçus.
Oui.
Donc, je vais d'abord la traduire en français, vous me la dites en norvégien.
Oui.
Est-ce que ça veut dire quand l'ours est baptisé?
Nobjørn.
Les dupt. Nobjørn la dupt.
Ja, absolute.
Mais ça veut dire? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quand les choses sont faites et terminées. Oh.
Jusqu'à ce... Oui, parce que tu as baptisé tout le monde.
Voilà, donc ça y est,
jusqu'à baptiser l'ours.
C'est vrai qu'au dernier baptême où j'étais, quand on est passé à l'ours, je me suis dit c'est bientôt fini.
Donc, la spécialiste de la maman, quand loup. Pardon, avoir le pou dans l'oreille.
Avoir le pou, P-O-U-X dans l'oreille.
Oh, Lucie-E-R-A.
Ouais, absolue.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Eh ben, c'est la puce à l'oreille.
C'est une façon humoristique de dire que quelqu'un est très irritant ou embêtant.
Parce que c'est chiant, oui, un truc dans l'oreille. Ouais.
Je comprends. C'est agaçant. Ouais.
C'est tous les poux, quoi.
Et donc, je vous
en ai rien à voir avec la France.
Vous voulez
Vas-y.
Alors, avoir une poule à picorer avec quelqu'un.
Une poule à picorer avec elle.
Alors là, la traduction, c'est si.
Aura en høne, ou. Menoun, picorer.
Au plukke.
Au plukke, menoun.
Ja.
Et bien, d'avoir
des ragots.
Un poule à picorer, alors.
Ouais, non, mais c'est avoir un.
Des gossips, quoi, des ragots, c'est.
Non, avoir des bails.
Non, d'avoir un.
C'est avoir des bails, quoi. C'est avoir des embrouilles avec quelqu'un.
Oui.
Ah. Des désaccords ou un problème à régler.
Des poules à picorer avec quelqu'un. Je vais la garder, celle-là.
Elle est bien,
hein. Elle est marrante, celle-là.
Elle est bien. Et la dernière, c'était « Il y a des hiboux dans la mousse ».
Non, alors là...
Alors, en orge...
La traduction. « Ugglaliskum ».
« Imousse ».
« Imousse ».
Il y a des hiboux dans la mousse.
Il y a un hibou roche.
Ouais, ah, bonne idée.
Ouais, c'est exactement ça.
Allez, Roxane.
C'est le baleine sous gravillon. Voilà.
Ok.
Hyper intéressant.
Hyper intéressant, ouais. Hein, et puis drôle, non?
C'était assez caustique quand même.
Donc ensuite, on m'a conseillé d'incorporer de l'autodérision.
Oui.
Et donc, faire rire en se moquant gentiment de soi-même est souvent très apprécié.
Allez, vas-y, moque-toi de toi-même.
Alors donc, bah, en fait, j'ai essayé de prononcer des mots imprononçables en norvégien.
Oui.
Mais donc voilà, comme mon accent n'est pas du tout celui de Cécile, c'est de l'autodérision. Donc je vais d'abord vous le mettre en norvégien et puis je vais plutôt vous demander, vous, d'avoir cette autodérision et
de le prononcer.
Le mot.
Mais Cécile ne peut pas jouer en fait.
Je ne joue pas.
Ouais. Non, parce qu'elle prononce trop bien.
C'est ça, trop forte.
Le suspense reste entier.
Je suis désolée. Hein.
Ombudsmannssekretariatsfunktion ene.
Il reprend.
C'est un mot, ça, depuis le début, de ce qu'on entend.
Oui, alors
début,
c'est un seul mot.
Bah oui, j'ai bien compris.
Civilombudsmannssekretariatsfunktion ene.
Mais attends, mais c'est quoi?
Civilsekretariatsfunktion ene.
Mais moi, je trouve ça super dur. Je trouve ça super dur.
C'est trop long, on peut pas le retenir, il faut le couper en quatre.
Ça fait 8 mots, quoi.
Civil.
Secretariat.
Ombudsmannssekretariatsfunktion ene.
Voilà.
C'est super dur.
Mais ça veut dire quoi?
Ouais. Et ça veut dire les fonctions du secrétariat du médiateur civil.
Mais pourquoi faire un seul mot pour ça, je crois.
Bon, j'en avais un autre que je vais tenter d'ouvrir.
Alors. Kommunal departementschefs kollegialitetsutdelingsforretning.
Kommunal forretning.
Kommunal departementschef. Nej, Je sais pas.
Ending à la fin. Ça finit
bon,
par
c'était
ing.
La cérémonie de distribution de la collégialité des chefs de département municipaux.
Eh bien, vous copierez ça 10 fois avant la prochaine fois.
Voilà. Ensuite, bon, bah, y avait aussi dans les conseils qu'il fallait éviter les blagues trop longues. Donc, je vais m'arrêter là. Je suis restée calme et confiante. Hein, comme,
oui,
comme
très confiante.
La façon dont vous racontez la blague est tout aussi importante que la blague elle-même. Soyez détendue et confiante. Observez les réactions.
Oui.
Je trouve que ça assez satisfaisant. Ouais. Vous avez plutôt ri. Et restez si dans votre style.
Très bonne réaction.
J'adore.
Donc, choisissez une blague qui correspond à votre propre sens de l'humour. Si vous vous sentez à l'aise avec la blague, cela se ressentira dans votre manière de la raconter. Donc voilà, j'avais quand même le dernier mot.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin, j'ai envie de te dire, qui est le plus long en norvégien. Vraiment le plus long.
Plus long que tout ce que tu viens de dire là déjà.
Ouais. La tête de
on va leur laisser le prononcer, hein, du coup.
Ah oui, oui.
Vas-y, ouais. Vas-y. Alors attention, le voilà.
Norges glasse pakkefabrikmester assistent unvik Elses forberedelse sunner mester oppgavene.
Interminable.
Oppgavene.
Interminable.
Ce sera votre oppgavene pour la prochaine fois.
Voilà, donc maintenant, je vous demande de découper ce mot et de savoir ce qu'il veut dire.
Alors, il faut le remettre 4-5 fois, minimum.
Il y a une boutique, il y a des opkava, il y a des tâches.
Ce mot extraordinairement long a été créé de manière humoristique pour démontrer à quel point il est possible de fusionner des mots en norvégien. Il n'a pas de signification réelle. Il n'est pas utilisé couramment dans
moi
la langue.
Moi qui pensais l'intégrer
dans un dîner.
Voilà. Il est formé en ajoutant ensemble divers mots pour créer un terme fictif et drôle.
Oh. Oui, c'est très long.
C'est très rigolo.
Il faut s'en rappeler.
Voilà, et pour terminer, comme on parle de tech, de tout ça, j'avais donc la dernière tendance TikTok.
Vas-y.
Pour vous, qui est cette version incroyable de... Je vous laisse découvrir.
Ça.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mort se secouent par des reins et font coin coin.
Merci à toutes et à Valentin qui a dû partir. On le remercie pour cette belle émission de Brisons la glace. Vous nous retrouvez sur SoundCloud, sur Facebook, sur Instagram et on vous fait la bise pour cette belle semaine du mois d'octobre. Prenez soin de vous. Ciao.
Salut.
Ciao.